Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour, merci d'avoir choisi Canal Académie. Depuis plus de 18 ans, elle observe le langage des entreprises, des institutions, des professions. Depuis plus de 18 ans, elle s'applique à mettre le langage au service du monde économique, non pas dans la nostalgie, mais dans l'efficacité. Qui est-elle ? Jeanne Bordeaux, fondatrice de l'Institut de la qualité de l'expression, que j'ai le plaisir de recevoir dans cette émission, pour évoquer son ouvrage récemment paru « Entreprises et marques, les nouveaux codes de langage », publié par les éditions Erol. Jeanne Bordeaux, bonjour.
Bonjour Hélène.
Et Olivier de Sarthe, journaliste, diplômé en didactique des langues et spécialiste lui aussi, on s'en doute, du langage et notamment du langage des entreprises. Et vous aurez reconnu le binôme de notre émission « L'oreille aux aguets » qui se penche justement sur le langage. Alors Jeanne, vous avez une conviction, les entreprises, si elles veulent s'exprimer de façon efficace, c'est-à-dire obtenir les effets qu'elles cherchent, il faut qu'elles engagent une réflexion sur leur stratégie de langage. Ça veut dire que jusqu'à présent, elles ne le faisaient pas ?
Alors en effet, ma première intuition et mon premier constat ont été il y a 18 ans que la langue était négligée par l'entreprise. On était dans une époque où la publicité était importante, où déjà les relations presse étaient là et où l'événementiel avait lieu à tout va. Et finalement, on se penchait peu sur le fait de savoir si l'on était clair, si l'on était compris. On faisait un peu de la publicité pour la publicité, créative très souvent et pas toujours compréhensible, ou de l'événement pour faire de l'événement. Et la langue n'avait pas sa place. Alors, c'était un grand sujet d'étonnement pour moi, parce que finalement, le premier outil de communication, c'est une langue et une langue claire.
Donc, ça veut dire que cette communication, qui a beaucoup évolué ces temps derniers, notamment avec des nouveaux supports, des nouvelles technologies, des nouveaux médias, notamment Internet, les entreprises n'ont pas tellement suivi dans leur langage.
Écoutez, j'étais seule vraiment dans le désert de la langue quand je parlais d'une qualité du langage dans le monde économique. Alors, cela me frappait beaucoup parce que déjà j'observais que si la langue était en mouvement, si le vocabulaire s'agrandissait, c'était essentiellement par l'univers économique, l'univers des nouvelles technologies et l'univers scientifique. L'univers scientifique, on en parlera moins parce qu'il était essentiellement en anglais. Donc, effectivement, on était dans un moment où la communication évoluait. Nous étions peut-être en 99, 2000, et où tout à coup, le web, tant mieux, allait libérer la parole et mettre tous les directeurs de la communication face à un enjeu nouveau que maintenant on entend à tout bout d'heure, qui est le contenu. Moi, je préférerais appeler cela le message et l'intelligence du message. Et j'y reviendrai, effectivement, pour fonder toute cette intelligence du message, il faut réfléchir à une stratégie.
Une stratégie donc du langage, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire une stratégie pour dire qui on est, son identité, et aussi pour être compris de tous les publics, que ce soit en interne ou que ce soit en externe. Alors je repose la même question, ça n'était donc pas le cas jusqu'à présent ?
Non, ça n'était pas le cas et on va bien comprendre. C'est-à-dire que maintenant, on a le directeur financier qui prend la parole, le directeur de la communication parfois, on a les directeurs des ressources humaines quand on entend parler de stress, de troubles psychosociaux, de suicide. On a le directeur du développement durable. Donc, tout à coup, le président peut aller à l'extérieur plus que n'importe qui d'autre et se rendre compte que finalement, c'est assez cacophonique. Alors, se dire que communication, c'est mettre en commun et se poser la question de fonder une parole commune, cela me paraît déterminant.
Olivier de Sarthe, vous avez quelques exemples peut-être à nous donner, vous avez des remarques à faire?
Effectivement, pour aller dans le sens de ce que vous évoquiez, Hélène, sur cette nécessité de réfléchir à une stratégie de langage et donc de servir celui qui va prendre acte de l'information donnée par l'entreprise, on voit dans votre ouvrage, Jeanne Bordeaux, qu'il y a des cas où cela semble particulièrement difficile. Par exemple, la SNCF, vous citez un de ses représentants dans votre ouvrage et il explique bien que la SNCF, avec l'importance que l'on sait, elle véhicule une parole plurielle, car toute personne qui parle en son nom porte elle aussi la marque. Est-ce que là, justement, ce n'est pas la principale difficulté pour édifier une cohérence de communication quand on a des acteurs, des intervenants multiples qui parlent au nom de l'entreprise?
Effectivement, Monsieur de Sarthe, c'est un bon enchaînement parce qu'une stratégie de langage, elle comporte au fond pour une entreprise l'identité que Madame Renard a évoquée. Dans une identité, vous avez des valeurs à prendre en compte. Comme on parlait de développement durable, dans la stratégie de langage où vous vous dites « en vue de quoi je communique », vous avez maintenant à présenter vos valeurs et éthiques, votre comportement citoyen, et là, au fond, vous vous situez en tant qu'entreprise, entreprise qui doit comprendre ses hommes, les écouter, les faire parler et faire naître une langue juste qui provient du cœur et du ventre de l'entreprise. Cette stratégie de langage, c'est une de ses parties. L'autre partie, si c'était un sablier, elle est fondée par l'expression de l'entreprise qui devient marque parce qu'elle regarde son marché, elle regarde ses clients, elle écoute ses prospects. Et la stratégie de langage, elle est fondée sur « en vue de quoi je parle, qu'est-ce que je veux dire ?» Pour toucher mes publics quand je suis entreprise ou quand je suis marque, comment puis-je faire pour d'abord être d'accord avec moi-même, parce qu'il faut se connaître soi et que tous les porte-paroles travaillent ensemble selon des méthodes qui vont créer un accord sémantique. Et ensuite, une fois cette parole commune fondée, il faut penser à la rendre séduisante sans pour autant en modifier le sens. C'est là où s'adapter, ça n'est pas perdre son âme, afin de pouvoir communiquer avec tous ces publics. Et cela, je dirais, en faisant les actes d'écriture, de stylistique et de séduction qui sont nécessaires en fonction des publics auxquels on veut parler.
Est-ce que vous auriez un exemple concret, Jeanne? Quelque chose que vous auriez vécu avec une grande entreprise ou avec une marque, justement, pour qu'on comprenne bien comment ils ont rectifié le tir?
Alors, Monsieur de Sarthe citait la SNCF. On peut prendre l'exemple de La Poste aussi, qui est une institution qui parle aux Français. C'est-à-dire que quand on est arrivé à La Poste, on nous a demandé de travailler sur la marque. Et c'était une époque où il y avait des réponses aux lettres des réclamations qui ne convenaient plus. Parce que La Poste répondait de façon un petit peu démodée, c'est-à-dire un peu trop comminatoire, avec une langue administrative, un peu vieillie. Donc, on s'est posé des questions sur le fond du message dans ces lettres qui étaient exprimées, quelle posture prendre et sur la forme à donner, parce qu'il fallait rajeunir cette langue. Mais rajeunir cette langue, c'est un mot qui a du fond, parce que c'était les valeurs mêmes de La Poste qui changeaient. La Poste pouvait, par exemple, apprendre à s'excuser et reconnaître qu'elle avait tort. Eh bien, ça pouvait aller avec un travail qui était en même temps fait avec un président qui, lui, avait des mots importants comme le mot « valeur ». Et quand il voulait travailler sur ses valeurs, redonner confiance, et que l'étymologie de confiance, c'est fidesse et fidélité, on voyait à quel point, quand il voulait être une entreprise et qu'il prenait le mot « valeur », il pouvait l'incarner, ce mot « confiance », en retravaillant les courriers des clients avec lesquels il allait communiquer mieux pour les fidéliser, parce qu'ils décidaient de travailler sur une langue qui devait être juste, et c'est-à-dire en accord avec l'attente des nouveaux clients de La Poste qui aussi avaient rajeuni.
C'est justement, j'allais dire, le mot que vous utilisez dans votre livre, Jeanne Bordeaux, les nouveaux codes de langage, car vous dites, vous avez au fond deux conseils à donner, si je puis dire, il faut parler juste ou écrire juste, c'est la même chose à l'oral et à l'écrit, et il faut parler ou écrire simple. Alors, commençons par le juste. Qu'est-ce que c'est écrire juste ?
Je pense qu'une entreprise est une personne morale et c'est pour ça que dans ce livre, je ne tiens pas à parler que de la marque qui est l'expression de l'entreprise vers l'extérieur et son marché. Et parler juste, c'est être en accord avec soi-même. Donc on a dit, s'il y a un zeste de légende qui est là, il faut écouter son passé. Les entreprises ont un patrimoine qu'elles doivent respecter et elles doivent être donc en axe avec ses racines parce que ces racines peuvent donner de l'élan. Ensuite, je pense que les porte-paroles, si on est dans un acte de communication, c'est presque un acte de communion, si elles ne mettent pas le même sens aux mots, eh bien, on va être mal et l'entreprise va avoir ce chaos dont je parlais tout à l'heure. Et pour que la langue soit juste, elle doit aussi émettre de façon musicale, harmonieuse, vers les publics qu'elle touche, parce qu'elle doit toucher leur raison, elle doit toucher leur oreille. Et au fond, ce qu'une marque ou une entreprise cherche, c'est à capter ou à ravir son public. Donc quand on ravit l'attention d'un public, c'est presque qu'on lui vole avec finesse son attention. Donc si la marque est en axe avec elle-même, qu'elle parle juste, elle peut parler une langue mélodieuse. Et peut-être que j'appuie avec insistance sur cette expression parce que je suis fatiguée par le parler vrai.
Là, on ne parlait donc pas du parler vrai, mais est-ce que c'est parler juste, c'est aussi parler franc? Mais parler franc, ce serait parler avec des chiffres. Est-ce que les chiffres doivent être annoncés comme ils sont? Est-ce que c'est ça, cette justesse-là dont il s'agit?
Alors, vous avez raison. Je pense qu'il y a eu des affaires avec des grands cabinets d'audit. On a vu qu'on pouvait mentir sur des comptes et en accord avec ceux qui devaient les certifier. Donc, l'authenticité, la vérité est recherchée, donc il y a une justesse de fond. Mais je parlais du fait que les entreprises peuvent réutiliser la rhétorique, la linguistique, la stylistique et se dire que dans l'art qu'elles auraient de narrer ou d'élargir l'éventail de leur registre de discours, ce n'est pas parce qu'elles vont l'élargir qu'elles ne doivent pas être en justesse et en vérité avec elles-mêmes. Et dans le mot juste, il y a aussi le fait que l'autre vous entend et vous comprend. Donc on ne parle pas tout haut, tout seul.
Si je comprends bien ce que vous dites, c'est-à-dire il faudrait remettre un petit peu d'émotion, de sensible dans le discours des entreprises.
Oui, vous le savez, dans les années 70, 80, jusqu'aux années 90, on a été exagérément par les fameux transparents, par le mot innovation, par une expertise qui était déversée à outrance dans une langue d'innovation. Et je crois que là, on avait une parole qui était faite d'infinitif, qui était une langue desséchée. C'était ce grand moment où toutes les entreprises étaient leaders. Donc, comment faisaient-elles pour être toutes leaders? Donc, il y a vraiment eu photocopiage, il y a eu excès et on était dans des mots restreints, usés et seule la recherche et le développement que l'on met comme mot en R&D avait droit de citer.
Jeanne, vous parlez effectivement de ce parler juste, de ce parler simple, mais on se dit en vous lisant que le combat n'est pas aisé puisque vous évoquez le cas d'une compagnie qui effectivement a fait appel à vous pour que vous apportiez votre expertise en interne, mais ensuite, les publicitaires, les gens du marketing ne vont pas suivre le même discours. Est-ce que ce n'est pas le genre de schisme lexical que vous avez à affronter, c'est-à-dire irriguer d'une parole juste à l'intérieur de l'entreprise et vous trouver confronté de l'autre côté à une sorte de résistance de la part de ceux que l'on appelle les publicitaires?
Alors oui, cela nous est arrivé une fois et j'aime bien dire quand on s'est trompé, c'est-à-dire que j'ai manqué d'audace commerciale, peut-être que par trop grande courtoisie, et je me suis rendu compte que finalement j'avais fait faire une faute à l'entreprise. Donc je crois que maintenant quand on intervient, on fait toujours un audit, c'est une analyse de discours, puis on fonde cette charte sémantique qui est au fond un code qui permet une circulation dans l'entreprise par tous les porte-paroles, puisque tout le monde parle pour qu'il n'y ait point d'accident. On peut décider dans sa charte sémantique de mots, de tournures de phrases, d'une langue sensible avec des symboles, des images, des métaphores choisies. Et cela permet une forme de code de la route, je le disais. Et ensuite, ce que l'on a trouvé de nouveau pour parer, et on possédait cela dès le départ d'ailleurs, mais on n'osait pas toujours le proposer, c'est toute la formation qui va ensuite accompagner nos programmes. Et il est vrai que j'ai un petit garçon qui s'appelle Jules et qui avait dit à sa maîtresse « Mais maman est professeure de français pour PDG ». Et d'une certaine manière, ça m'avait fait sourire, mais ça n'est pas complètement faux, puisque quand on conçoit nos chartes sémantiques, on aide par des chartes éditoriales et par des formations conçues sur mesure pour chaque groupe dans lequel on intervient à appliquer ce langage. Parce que sinon, ça n'est pas possible. Et cette modélisation qui peut être permise par l'informatique, puisque l'informatique permet désormais ce genre de déploiement, pourrait aboutir à l'inverse de ce qu'elle cherche à faire. Par exemple, maintenant, on parle souvent de plateformes éditoriales, mais je vois les grandes marques tout à fait empêtrées par ces plateformes éditoriales en se disant « ça veut donc dire que l'on écrit en interne, mais elle ne possède pas les qualités d'écriture interne pour appliquer ». Donc, beaucoup de nouveaux métiers vont apparaître et Madame Renard avait raison, on est dans une nouvelle ère de la communication où je voyais une grande marque automobile ce vendredi là, de cette semaine qui vient de s'écouler, où il crée, c'est une marque internationale et mondiale, une direction des messages. Et c'est un peu ce que j'annonce dans mon ouvrage.
Je vous propose de marquer une courte pause avant de continuer cette conversation sur les nouveaux codes de langage en s'inspirant du livre de Jeanne Bordeaux produit chez Erol.
Environnement, développement durable, énergie verte, Canal Academy vous propose des émissions sur ces thèmes en compagnie d'académiciens des sciences, mais aussi avec des économistes et des historiens. Que ferons-nous sans pétrole? Comment stopper les augmentations d'émissions de gaz à effet de serre? Le nucléaire est-il la solution au réchauffement climatique? Quelle gestion économique de l'eau douce dans les années à venir? Faites le point sur ces questions en téléchargeant nos émissions sur canalacademy.com.
Retour dans notre studio en compagnie de Jeanne Bordeaux, auteure de « Entreprises et marques, les nouveaux codes de langage » et puis d'Olivier Dessartes, journaliste en didactique des langues. Jeanne Bordeaux, vous vouliez que le langage soit juste, qu'il soit simple, mais vous voulez aussi qu'il soit cohérent. Vous êtes d'une grande exigence. Alors, de quelle cohérence parlez-vous ?
Alors peut-être que là, ça rejoint ce chapitre où je dis « le président donne le là ». Malgré tout, je pense que dans le langage, il y a des registres de discours. On peut parler, on a dit, par une mise en commun de valeurs communes partagées. On peut parler par le cadrage et mettre de la pédagogie dans un discours. On peut utiliser en stylistique, on a vu, l'analogie, tout ce qui est symbolique. Mais il ne faut pas oublier que dans les registres de discours, il y en a un qui est très important, qui est le langage d'autorité. Et je crois que, par exemple, dans la cohérence, les dirigeants doivent être auteurs d'une stratégie, de messages, d'une hiérarchisation décidée qui fait que le langage donne forme à des projets et des actions que l'entreprise a réfléchi. Et peut-être qu'on est au début, grâce à cette parole libérée du web, au début de ce moment où, j'essayais d'expliquer il y a 10 ans, le langage, les messages majeurs doivent être examinés par le comité exécutif et ça doit être partagé. Le langage est un capital. S'il est de qualité, il a donné et il donnera à l'entreprise une plus grande valeur ajoutée. Mais le choix des mots, des tournures, la posture dont vous décidez, c'est une signature sémantique. Et à une époque où les entreprises recherchent tant la différenciation, il vaut mieux être unique parce que l'on est cohérent et que l'on sait le but que l'on veut atteindre. Et je crois que le donneur de sens, le porteur de direction, c'est le dirigeant ou ce sont les dirigeants dans un comité exécutif.
Olivier Dessartes, ce livre de Jeanne Bordeaux, comment est-il conçu ? Présentez-le-nous, s'il vous plaît.
Il est conçu autour de 3 axes. Il y a cette idée, effectivement, que les dirigeants donnent le là. Donc, Jeanne Bordeaux se concentre sur la parole des dirigeants en évoquant, effectivement, aussi le cas des hommes politiques et du président de la République. Elle évoque aussi la parole sur le net. Est-ce que finalement Internet nécessite la création d'un nouveau langage? C'est la question que pose Jeanne Bordeaux. Et puis, il y a également une réflexion sur la parole à l'intérieur de l'entreprise. Mais si vous le permettez, Hélène, Moi, ça m'amène justement à cette question que l'on se pose en vous lisant sur la partie liée au web, liée au net, avec le risque de faire perdre à notre belle langue française aussi, d'ailleurs, sa possibilité d'existence à cause de l'envahissement de l'anglais. Mais surtout, vous nous dites que les paroles ne s'envolent plus aujourd'hui. À cause du net, les paroles restent toujours présentes. Vous écrivez même dans le livre, tout ce que vous écrivez sera retenu contre vous. Alors, à l'heure du net, à l'heure de cette marque conversationnelle, puisque tout le monde peut discuter avec elle par site interposé, que faut-il faire, Jeanne ? Il faut adopter une sorte de stratégie du désir, ne pas trop parler ?
Les entreprises vont vous répondre qu'elles n'ont pas le temps d'accorder l'expertise, le soin qu'il faut à la qualité. Alors, j'ai une réponse, c'est que je leur dis « parlez moins ». Et parler mieux. Et il est vrai que dans une époque où tout peut être immédiatement inscrit sur le web, où il y a une mixité de l'oral et de l'écrit, c'est vrai des hommes politiques comme des dirigeants du monde économique, c'est pour cela que dans ce chapitre je les réunis, je crois qu'il faut qu'ils réfléchissent au fait que leur parole, si elle est trop libre, si elle est trop bavarde, elle est encore plus aisément décomposée. Donc, il est temps et très urgent de ne pas se presser, de réfléchir quand on est et une entreprise, puisque je mets les dirigeants, les hommes qui sont à l'intérieur de l'entreprise et les équipes comme faisant partie de la personne morale entreprise, et c'est pour cela que je me bats en disant il n'y a pas que le langage de marque, parce que le langage de marque, ce serait un langage imposé par un marché, par des clients qui sont exigeants, parfois paradoxaux, gâtés, et qui, le lendemain, peuvent vouloir le contraire de ce qu'ils désiraient la veille. Et cette marque conversationnelle a des aspects dangereux. Donc j'ai voulu dans ce livre aussi expliquer, quand on a l'entreprise, ses hommes, le président qui donne le « là », comment l'entreprise doit se connaître, trouver élan dans sa mémoire et savoir où elle désire aller. Et certes, elle doit écouter son marché, mais c'est plus que jamais le moment, dans cette mixité de l'oral et de l'écrit et de ces consommateurs qui ont le temps de vous écrire, de garder le « là » et de faire attention au débat que vos propres propos pourraient soulever. Donc, il faut prendre le temps de penser. Face à une immédiateté telle, il y a grand danger.
Alors, je voudrais dire aussi que ce livre, Jeanne Bordeaux, il est conçu avec de très nombreux exemples vécus. C'est-à-dire, vous, vous entrez vraiment dans le concret. Vous donnez des exemples, des témoignages, des rencontres, des entretiens, des interviews et même des questions de Candide. Alors moi, j'ai particulièrement aimé les questions de Candide, puisque je suis très candide dans ce domaine. Alors, je voudrais vous poser une question de Candide pour terminer. Vous voulez bien ? Question de Candide. Le rapport annuel d'une entreprise est-il un outil de communication et peut-on travailler sur son langage ?
Alors, il est un outil de communication et c'est vraiment une bonne question de conclusion parce qu'il est uniquement réservé au public financier. Et les entreprises ont fait une importante erreur depuis 5 à 7 ans, c'est qu'elles y ont mêlé le rapport développement durable. Or, on sait en communication qu'on a un outil, un message et qu'on doit avoir un seul propos. Donc, il y a exercice d'écriture dans un rapport annuel parce que ça doit être une langue sobre, factuelle, pour des gens rationnels qui analysent une entreprise et qui veulent, même dans l'écriture, des faits, uniquement des faits et de la preuve. Donc là, on a une langue qui peut être neutre, mais qui doit être crédible. C'est un sans faute, un rapport annuel, parce qu'on y juge votre entreprise, qu'elle soit cotée ou non, puisque même les entreprises non cotées ont commencé à présenter des rapports annuels. Où l'erreur a été faite, c'est que c'est devenu, après, un outil de présentation de l'entreprise pour tous les publics. Or ça, c'était une faute de communication.
Ça va changer.
Ça va changer parce que les entreprises s'en sont rendues compte.
Merci Jeanne Bordeaux. On ne peut pas tout aborder de tous les éléments que vous donnez dans cet ouvrage, Entreprises et marques, les nouveaux codes de langage. C'est publié par les éditions Erol. Et je voudrais seulement ajouter aussi, et vous allez nous en dire un petit mot, que vous êtes aussi artiste puisque vous composez des tableaux de mots. Alors comment faites-vous ?
Alors, c'est venu des audits sémantiques qui étaient faits pour les entreprises et je me suis dit que c'était intéressant parce que pour moi, il n'y a pas de lutte entre le mot et l'image. avec une image, on doit mettre des mots, et face à des mots, une image. Donc quand on avait fait la récolte et cueillette des mots de l'univers d'une entreprise, je me disais que peut-être je pouvais recomposer le dessin que créaient ces mots, parce que ces mots réunis émettaient un concept très clair, dominant, et la composition de ces mots en collage me permettait peut-être d'illustrer ce qui se passait dans une entreprise. Je prends un exemple, une entreprise qui était en grand changement. Eh bien, j'ai fait un homme papillon avec les mots pour exprimer la métamorphose que vivait cette entreprise. Et ça a été très clair pour tous.
Alors, merci Jeanne Bordeaux. On attend votre prochaine exposition de tableaux de mots pour aller les voir. Merci à vous, Olivier Dessert. Un mot de conclusion ?
Oui, je crois aussi que ce livre pousse à réfléchir sur ce qui anime la réflexion de Jeanne Bordeaux, qui peut se terminer par un pourquoi. Pourquoi le monde économique a consommé une rupture avec le monde de la culture, et je pense que notre artiste...
Ou réciproquement.
Voilà, exactement. Et je crois que notre artiste serait bien envieuse de voir un jour se réaliser un retour vers des liens plus proches, économie, culture, un mariage réussi. Mais c'est une autre histoire, c'est vrai.
Merci.
C'est vrai que ce n'est pas pour rien que j'enseigne à l'école Holden en Italie, parce que je pense que les Italiens ont toujours mieux marié que nous le monde de l'économie et de la culture. Et qu'en France, il y a, de la part des entreprises, un début de volonté de mécénat, mais il n'est pas profond, vécu, et c'est quelque chose qui est un peu une cassure intérieure et qui ébrèche mon cœur à moi, parce que j'aime les deux univers autant l'un que l'autre.
Économie et culture, réconciliez-vous. C'est la conclusion de cette émission. Merci à vous de l'avoir écoutée et à bientôt pour une autre émission Oreilles aux aguets, lorsque Jeanne Bordeaux et Olivier Dessart voudront bien nous en faire une. À bientôt.
À bientôt.